Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Comment tu vas ?
Très bien, dans l'esprit on espère.
Oui, oh oui, oui, il faut s'y maintenir, c'est sûr. On continue avec le catéchisme évidemment, et l'Esprit Saint encore plus. Et on arrive au numéro 737 qui aborde le thème de l'Esprit Saint et l'Église. Et j'aimerais te poser comme première question, où se trouve l'Esprit Saint dans l'Église quand on dit qu'elle est le temple de l'Esprit Saint ? Ça veut dire qu'il doit être présent, mais à quel endroit ?
Alors le mot temple, évidemment, est une image qui renvoie au corps du Christ, là où est l'Église, là est l'Esprit Saint, disent les Pères, et là où est l'Esprit Saint, là est l'Église et toute grâce, comme dit saint Irénée. Et donc il faut bien comprendre que ces notions de temple nous renvoient dans le fond à la haute antiquité, et en particulier au mystère d'Israël, qui avait un temple, et qui était au sommet de Jérusalem, dans lequel on adorait Adonai Tsavaoth, c'est-à-dire le Dieu des armées, le Dieu qui s'était révélé à Israël. Et il y a eu toujours le sentiment que l'Église prolongeait ce mystère d'Israël, le nouvel Israël. Et donc, du coup, l'Esprit Saint qui a été donné au début de l'histoire du salut, à travers les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et Moïse, surtout avec la tente au désert, puis la construction vraiment du temple du temps du roi David qui a fait les préparations et de Salomon qui l'a réalisé, eh bien, il y a eu la Shérina, il y a eu l'Esprit qui a habité le temple de Dieu, c'était le lieu de la présence. Et ce lieu de la présence, donc, bien sûr, se voit accompli et d'une manière, dans un dépassement total par Jésus. Jésus dit bien qu'il y a plus grand ici que le temple, et il se désigne lui-même. Or, nous sommes appelés par le baptême à être fils dans le Fils. Et donc, ce temple, ben, c'est nous. Ce temple, c'est la présence de l'Esprit Saint en nous et de Jésus qui habite en nous, qui fait sa demeure en nous, car les trois personnes divines viennent faire demeure en nous par le baptême, puisque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Donc on peut trouver l'Esprit Saint un peu partout enfin, il est partout dans l'Église, alors. Oui, plus particulièrement peut-être dans les sacrements.
Alors, il est déjà dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le premier lieu de rencontre de l'Esprit, puisque c'est la parole de l'Esprit, finalement, qui, au long des siècles, a inspiré les prophètes, a inspiré Jésus lui-même. Jésus se dit souvent tressaillant du Saint-Esprit dans les évangiles, et on voit bien que la parole de Dieu est toute première. Et pour nous, chrétiens, c'est toujours important de revenir à cette source du Dei Verbum, la parole de Dieu. Il n'y a pas de célébration, que ce soit de l'Eucharistie, que ce soit des sacrements, que ce soit même de l'eau de vêpres, du temps ordinaire, des prières régulières dans l'Église le matin et le soir, l'eau de le matin, vêpres le soir, compris avant de se coucher. Ces prières rythment le temps, et dans toutes, il y a prononciation, élocution de la parole de Dieu. Elle est proférée publiquement, elle est chantée même à travers les psaumes, et donc cette parole de Dieu est efficace. Cette parole de Dieu montre l'Esprit qui agit dans les cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 5, 5, et nous comprenons que si nous écoutons la parole de Dieu avec un esprit filial, si nous écoutons la parole de Dieu dans la grâce, et si nous nous mettons dans les dispositions pour recevoir cette grâce, eh bien la parole de Dieu est efficace. Donc la première présence, c'est vraiment la parole de Dieu. Et puis, c'est vrai que les sacrements, eh bien, font appel à cette parole de Dieu et agencent les choses de telle sorte que ces signes visibles de réalité invisible soient opérantes. C'est-à-dire que, dans le fond, les sacrements font ce qu'ils signifient. Et nous avons la grande joie d'avoir 7 sacrements dans les véritables églises, c'est-à-dire l'église catholique, les églises orthodoxes, 7 sacrements dans lesquels ces signes sont appelés par le catéchisme signes efficaces, mais il faut bien comprendre, c'est pas le signe en lui-même qui est efficace, c'est le signe qui dit quelque chose qui lui-même est efficace. Mmh. Et il ne faut pas faire, bien sûr, un nipalage et aller trop vite en la matière. Ce sont des expressions parfois un peu raccourcies qui font un peu fureur chez certains en disant vous parlez de signes efficaces alors que ce ne sont que des signes audibles, des signes tangibles, etc. Vous masquez l'œuvre de Dieu. Non, on renvoie à l'œuvre de Dieu. Hein, signes visibles de réalités invisibles. Ce sont les réalités invisibles finalement qui sont importantes, parce que l'Esprit Saint, c'est une réalité invisible. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, et pourtant on entend sa voix et il est là. Hein. Et c'est assez extraordinaire de penser à cette présence du Saint-Esprit dans les cœurs par le biais donc de la parole de Dieu et par le biais des 7 sacrements qu'il est peut-être bon de redire. D'abord les 3 sacrement d'initiation, le baptême qui nous met vraiment dans la mort et la résurrection du Christ, puis la confirmation qui nous confirme ce grain de sénévée qui a été planté en nous, qui va lui rendre la force pour pouvoir se développer. Et puis, ce qui va l'alimenter régulièrement, comme on alimente une plante d'eau, de soleil, de bonne terre, de tout ce qu'il faut, tous les condiments qu'il faut pour que la plante se hisse vers le ciel, vers sa destinée, eh bien, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie vient comme une nourriture qui multiplie la grâce. C'est pour cela qu'il y a des conditions pour la recevoir. Hein, autant pour le baptême, il n'y a pas de conditions. On peut être le pire meurtrier qui soit et on peut recevoir le baptême si on est repentant. Bien sûr, il faut la conversion. Mais après, pour recevoir l'Eucharistie, il y a des conditions, et notamment le sacrement de réconciliation qui vient guérir notre âme si elle a commis des péchés. Et puis il y a un autre sacrement de guérison, c'est le guérison du corps, le sacrement dit des malades, mais qui peut toucher aussi notre psychisme. On ne le sait pas assez, mais l'Esprit Saint veut toucher, guérir les psychismes aussi. Et on peut recevoir le sacrement des malades à cette occasion. Et puis après ça, vous avez, après donc les 3 sacrements d'initiation, les 2 sacrements de guérison, vous avez 2 autres sacrements dits d'état, dans lesquels le Saint-Esprit est extrêmement à l'œuvre, c'est le mariage. Le mariage qui est la forme fondamentale de tous les sacrements, comme disait Saint Jean-Paul II, puisque dans le fond... tout l'œuvre de Dieu, tout son dessein d'amour bienveillant, eh bien, ce sont les épousailles de Dieu avec l'humanité. Et c'est pour ça que c'est le sacrement vraiment fondamental. Et un autre sacrement aussi a été institué, c'est le sacrement de l'ordre, avec ses 3 degrés, le diacre, le presbytre et l'épiscope, l'évêque. Et il est là, donné au service du corps mystique, c'est-à-dire du corps qu'est l'Église, et qui permet, dans le fond, de donner ces sacrements et d'instruire le peuple de Dieu, qui est le corps du Christ. Et donc ce temple est une très très belle image, puisqu'il permet de montrer, dans le fond, ce qu'est une Église. Une Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu qui loue le Seigneur, qui croit en lui, qui l'adore, qui se met au service les uns des autres.
L'Esprit Saint semble donc vraiment partout, en tout lieu, dans l'Église, dans chacun de ses membres. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que si le Verbe s'est fait chair, ça a donné Jésus? Est-ce que l'Esprit Saint, on pourrait parler de l'Église comme une incarnation de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on a le droit de dire ça en théologie?
Non, non, très clairement, il faut dire non. Même la Vierge Marie, qui est le sommet de l'Église, qui est la réalisation la plus parfaite de l'Église, comme dit le Concile Vatican II, un théologien a essayé de pousser un peu les pions en disant « Est-ce que la Vierge Marie ne serait pas l'incarnation du Saint-Esprit ?» On le connaît bien, c'est le franciscain Saint Maximilien Kolb. Alors, il a été saint, un vrai martyr, mais par ailleurs, sa pensée n'a pas été reconnue. D'ailleurs, il a été prudent, il disait la quasi-incarnation du Saint-Esprit, parce qu'il voyait bien qu'il pouvait y avoir quelque chose d'un peu excessif à dire cela. Non, le seul des 3 de Dieu, les trois personnes divines qui s'est incarnée. Saint Thomas dit qu'une autre personne divine aurait pu s'incarner, mais il convenait que ce soit celle qui soit générée, hein, qui correspondait le mieux à notre situation de créature. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul incarné, le seul, je dirais, qui a reçu une humanité complète, qui l'a assumée entièrement et qui fait que nous puissions nous-mêmes être sauvés, parce que si Jésus n'était pas incarné, ben, nous ne serions pas sauvés.
L'Église reste quand même le parfait visage de l'Esprit-Saint, malgré tout. On nous présente l'Église comme une figure, l'élément le plus propre à représenter ou à porter l'œuvre de l'Esprit-Saint.
Oui, parce que on peut dire, comme disait si bien Bossuet, l'Église c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Et on voit bien dans la vie de Jésus combien l'Esprit a été là dès le début. C'est lui qui a fait que la Vierge Marie ait pu concevoir en elle et qui a accompagné tous les instants de la vie de Jésus, le conduisant au désert, le conduisant dans toute sa vie terrestre jusqu'à sa passion, où Jésus remet l'Esprit-Saint sur la croix. Et après, Jésus nous délivre le Saint-Esprit par le souffle qu'il anime sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Donc l'Esprit est sans cesse présent tout du long de la vie du Christ, et donc l'Église, c'est bien Jésus-Christ répandu et communiqué sous l'action du Saint-Esprit, et jamais sans lui.
Très bien, merci frère Édouard.
À bientôt frère Louis.